Étienne Bonneau de Condillac, 1755, Traité des animaux. Première partie, du système de Descartes et de l'hypothèse de M. de Buffon. Chapitre 1er. Que les bêtes ne sont pas de purs automates et pourquoi on est porté à imaginer des systèmes qui n'ont point de fondement. Le sentiment de Descartes sur les bêtes commence à être si vieux qu'on peut présumer qu'il ne lui reste guère de partisans, car les opinions philosophiques suivent le sort des choses de mode. La nouveauté leur donne la vogue, le temps les plonge dans l'oubli. On croit que leur ancienneté est la mesure du degré de crédibilité qu'on leur donne. C'est la faute des philosophes. Quels que soient les caprices du public, la vérité bien présentée y mettrait des bornes, et si elle l'avait une fois subjuguée, elle le subjuguerait encore toutes les fois qu'elle se présenterait à lui. Sans doute, nous sommes bien loin de ce siècle éclairé qui pouvait garantir d'erreur toute la postérité. Vraisemblablement, nous n'y arriverons jamais. Nous en approcherons toujours d'âge en âge, mais il fuira toujours devant nous. Le temps est comme une vaste carrière qui s'ouvre aux philosophes. Les vérités, semées de distance en distance, sont confondues dans une infinité d'erreurs qui remplissent tout l'espace. Les siècles s'écoulent, les erreurs s'accumulent, le plus grand nombre des vérités échappent, et les athlètes se disputent des prix que distribue un spectateur aveugle. C'était peu pour Descartes d'avoir tenté d'expliquer la formation et la conservation de l'univers par les seules lois du mouvement, il fallait encore borner au pur mécanisme jusqu'à des êtres animés. Plus un philosophe a généralisé une idée, plus il veut la généraliser. Il est intéressé à l'étendre à tout parce qu'il lui semble que son esprit s'étend avec elle et elle devient bientôt, dans son imagination, la première raison des phénomènes. C'est souvent la vanité qui enfante ces systèmes. Et la vanité est toujours ignorante. Elle est aveugle. Elle veut l'être. Et elle veut cependant juger. Les fantômes qu'elle produit ont assez de réalité pour elle. Elle craindrait de les voir se dissiper. Tel est le motif secret qui porte les philosophes à expliquer la nature sans l'avoir observée, ou du moins après des observations assez légères. Ils ne présentent que des notions vagues, des termes obscurs, des suppositions gratuites, des contradictions sans nombre. Mais ce chaos leur est favorable, la lumière détruirait l'illusion, et s'ils ne s'égaraient pas, que resterait-il à plusieurs? Leur confiance est donc grande et ils jettent un regard méprisant sur ces sages observateurs qui ne parlent que d'après ce qu'ils voient et qui ne veulent voir que ce qui est. Ce sont à leurs yeux de petits esprits qui ne savent pas généraliser. Est-il donc si difficile de généraliser quand on ne connaît ni la justesse ni la précision? Est-il si difficile de prendre une idée comme au hasard, de l'étendre et d'en faire un système? C'est au philosophe qui observe scrupuleusement qu'il appartient uniquement de généraliser. Il considère les phénomènes, chacun sous toutes ses faces, il les compare, et s'il est possible de découvrir un principe commun à tous, il ne le laisse pas échapper. Il ne se hâte donc pas d'imaginer, il ne généralise au contraire que parce qu'ils y sont forcés par la suite des observations. Mais ce que je blâme, moins circonspect, bâtissent, d'une seule idée générale, les plus beaux systèmes. Ainsi, du seul mouvement d'une baguette, l'enchanteur est levé, détruit, change tout au gré de ses désirs, et l'on croirait que c'est pour présider à ces philosophes que les faits ont été imaginés. Cette critique est chargée si on l'applique à Descartes, et on dira sans doute que j'aurais dû choisir un autre exemple. En effet, nous devons tant à ce génie que nous ne saurions parler de ses erreurs avec trop de ménagement. Mais enfin, il ne s'est trompé que parce qu'il s'est trop pressé de faire des systèmes, et j'ai cru pouvoir saisir cette occasion pour faire voir combien s'abusent tous ces esprits qui se piquent plus de généraliser que d'observer. Ce qu'il y a de plus favorable pour les principes qu'ils adoptent, c'est l'impossibilité où l'on est quelquefois d'en démontrer, à la rigueur, la fausseté. Ce sont des lois auxquelles il semble que Dieu aurait pu donner la préférence, et s'il l'a pu, il l'a dû, conclut bientôt le philosophe qui mesure la sagesse divine à la sienne. Avec ces raisonnements vagues, on prouve tout ce qu'on veut, et par conséquent, on ne prouve rien. Je veux que Dieu ait pu réduire les bêtes au pur mécanisme, mais l'a-t-il fait? Observons et jugeons, c'est à quoi nous devons nous borner. Nous voyons des corps dont le cours est constant et uniforme, ils ne choisissent point leur route, ils obéissent à une impulsion étrangère, le sentiment leur serait inutile, ils n'en donnent d'ailleurs aucun signe, ils sont donc soumis aux seules lois du mouvement. D'autres corps restent attachés à l'endroit où ils sont nés. Ils n'ont rien à rechercher, rien à fuir. La chaleur de la terre suffit pour transmettre dans toutes les parties la sève qui les nourrit. Ils n'ont point d'organes pour juger de ce qu'il aurait propre. Ils ne choisissent point. Ils végètent. Mais les bêtes veillent elles-mêmes à leur conservation. Elles se meuvent à leur gré. Elles saisissent ce qui leur est propre, rejettent, évitent ce qui leur est contraire. Les mêmes sens qui règlent nos actions paraissent régler les leurs. Sur quel fondement pourrait-on supposer que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, qu'elles ne sentent pas, en un mot? À la rigueur, ce n'est pas là une démonstration. Quand il s'agit de sentiments, il n'y a d'évidemment démontré pour nous que celui dont chacun a conscience. Mais parce que le sentiment des autres hommes ne m'est qu'indiqué, sera-ce une raison pour le révoquer en douce? Me suffira-t-il de dire que Dieu peut former des automates qui feraient par un mouvement machinal ce que je fais moi-même avec réflexion? Le mépris serait la seule réponse à de pareils doutes. C'est extravaguer que de chercher l'évidence partout. C'est rêver que d'élever des systèmes sur des fondements purement gratuits, saisir le milieu entre ces deux extrémités, c'est philosopher. Il y a donc autre chose dans les bêtes que du mouvement. Ce ne sont pas de purs automates, elles sentent.